Bonjour à tous, vous êtes bien sur Radio Campus Lille 106.6 FM, il est 16h33. Je suis Théo Ledvoet et j'animerai jusque 18h cette émission spéciale dédiée à la médiation culturelle. Après nos trois entretiens de la semaine dernière, à la même heure, nous poursuivons aujourd'hui avec les trois derniers. Pour ceux qui nous rejoignent en cours de route, je rappelle que nous sommes un groupe d'étudiants de Lille 3 qui accueillons des professionnels de la culture et du patrimoine de la métropole lilloise afin de discuter de la médiation culturelle sous toutes ses coutures. Les premiers invités, ainsi que mes chers camarades, sont déjà installés. Il ne me reste plus qu'à leur donner la parole. Chloé et Maud, vous inaugurez cette émission avec non pas un, mais deux invités. Deux professionnels de l'association Muséomix, je vous laisse la main.
Merci Théo pour cette présentation. Donc comme tu viens de le dire, donc nous sommes aujourd'hui en compagnie du coup d'Antoine Matrion et Nicolas Bremard qui vont nous parler de Muséomix en or. Donc est-ce que l'un d'entre vous, donc Antoine peut-être, peut nous présenter brièvement l'association ?
Alors l'association Muséomix Nord en fait a été créée, alors je me trompe exact, peut-être vous savez maintenant.
Donc il y a 6 ans, moi j'avais noté.
Alors c'est 6 ans en France, mais dans le Nord je crois que c'est depuis 2012.
On a un petit problème technique, ouais. Le micro de l'invité ne marche pas. Est-ce que vous pouvez peut-être parler dans celui-là en attendant ?
Est-ce que celui-là marche ?
Ouais, pour l'instant, ouais, celui-là marche, merci.
L'association Muséomix Nord a été créée en 2013, si je dis pas de bêtises, avec pour but d'organiser de façon annuelle l'événement Muséomix Nord dans le territoire du Nord et du Pas-de-Calais, de l'ancienne région Nord-Pas-de-Calais.
Voilà. Merci beaucoup. Et du coup, est-ce que vous pouvez présenter un petit peu votre rôle au sein de l'association ?
Alors moi, au sein de l'association, je fais partie depuis le début en fait, de l'association. Mon rôle est d'organiser la dimension partenariale et financière du projet. Donc de rechercher des partenaires et des financements pour pouvoir permettre à l'événement de se faire, puisque je pense qu'on y reviendra après, mais cet événement, évidemment, comme tous les événements culturels, demande des moyens humains et financiers.
Et Nicolas, est-ce que tu peux te présenter à présent ?
Donc moi je suis ingénieur en informatique dans un laboratoire de recherche. J'ai entendu parler de Muséomix sur Twitter une année où c'est un événement à Lille. C'était le musée d'histoire naturelle. Puis je suis venu participer à un apéromix, donc c'est une réunion qu'ils font en dehors de l'événement. Et j'ai trouvé ça intéressant et je suis venu participer en tant que codeur dans l'équipe.
Merci beaucoup. Donc Aude, peut-être peux-tu passer à la première question ?
Oui, bien sûr. Donc en fait, on va tout de suite un peu au niveau des profils des muséomixeurs. Alors justement, plusieurs équipes de 6 membres sont constituées durant ces 3 jours. Quels sont les profils de ces muséomixeurs ?
Alors, déjà, donc, le but de Muséomix...
Toujours le problème de micro.
Déjà, le but de Muséomix, on l'a pas dit, c'est pendant 3 jours, en fait, de faire se rencontrer des gens qui ne se connaissent pas, donc du coup, les muséomixeurs, donc participants volontaires, avec comme challenge de leur donner, pendant ces 3 jours, comme challenge d'inventer, de créer, de fabriquer des prototypes de médiation. Tout ceci étant localisé au sein d'un musée. Donc en 2013, on l'a fait au musée d'histoire naturelle de Lille. Ou en 2014, on l'a fait au musée d'histoire naturelle de Lille, pardon. En 2015, on l'a fait à la manufacture de Roubaix, qui est un musée du textile. Et cette année, en 2016, on l'a fait à Archéos, qui est un musée d'archéologie situé à Douai. Et donc, on recrute, entre guillemets, ces muséomixeurs en fonction de leurs compétences. Et donc, c'est pour répondre à ta question, effectivement, leurs compétences sont recherchées, sont celles de professionnels de la médiation, de professionnels de ce qu'on appelle du contenu. Donc, par exemple, dans un musée d'archéologie, ça va être des gens qui s'y connaissent en archéologie, des archéologues, mais aussi quelqu'un qui aura un rôle de communicant, donc plutôt un professionnel de la communication, un graphiste. Alors, faut pas que j'en oublie, évidemment. Un codeur, comme l'expliquera Nicolas. Et là, j'ai oublié un rôle. Donc, et un fabricant, donc, ou ce qu'on appelle aussi un makers. Donc quelqu'un, puisque comme j'ai dit, ce prototype doit être fabriqué, donc quelqu'un qui va être capable de le mettre en forme physiquement. Puisque au bout des 3 jours, le challenge est bien que le public qui vient dans le musée puisse tester ses prototypes.
Et quel est l'intérêt selon vous justement de varier les profils comme ça, des personnes venant pas du milieu de la médiation ?
Alors nous, notre idée, c'est déjà que l'objectif soit rempli. Et pour que l'objectif soit rempli, il faut des profils qui soient complémentaires et qui permettent d'avoir toutes les compétences nécessaires au succès fixé dans le challenge. Et en fait, le projet Musomix, comme vous l'avez dit tout à l'heure, toutes les deux, il est né il y a 6 ans sur un plan national. Et on va dire qu'il y a une charte qui a été créée par les fondateurs de Musomix qui définit un petit peu par avance tous ces profils qui permettent en fait d'avoir toutes les compétences nécessaires à la création finalisée d'un prototype de médiation.
D'accord. Vous favorisez une parité de profil. Est-ce que selon vous, elle correspond à votre vision du médiateur culturel ?
Alors, elle correspond peut-être pas à la vision que j'ai moi du médiateur culturel, mais elle correspond plutôt à la vision que j'ai du travail en équipe que devrait mettre en place un médiateur culturel. C'est-à-dire que dans le métier effectivement de médiateur culturel, il ne peut pas avoir l'idée de travailler tout seul dans son coin sans aller chercher à côté les compétences nécessaires qui sont aujourd'hui celles d'un musée qu'on pourrait qualifier de moderne. Donc que ce soit des compétences techniques, technologiques, informatiques, etc. Nouvelles technologies. C'est aussi l'idée de Musomix derrière tout ça. C'est aussi de se faire rencontrer les représentants des nouvelles technologies avec les professionnels de la culture et des musées.
Merci beaucoup. Du coup, Nicolas, qu'est-ce qui t'a poussé à participer à cette expérience ?
Moi, j'avais envie de travailler avec des personnes d'autres disciplines, parce qu'en général ce que je peux faire moi-même c'est je peux créer un programme, mais il n'est pas forcément beau, donc travailler avec un graphiste en général c'est bien, donc ça me permet de rencontrer deux personnes d'autres domaines, d'autres horizons disons, et puis de rencontrer des gens, je peux faire du réseau, de parler.
Donc, comme tu m'as dit tout à l'heure, donc toi, tu as une sorte de double profil. Tu es à la fois membre organisateur au sein de l'association, mais tu es souvent appelé à être codeur. Est-ce que ton expérience en tant que codeur t'a apporté quelque chose ? Enfin, de dire dans ta vie, est-ce que l'expérience musée, je vais reformuler autrement, est-ce que ton expérience en tant que codeur au sein de l'expérience Muséomix t'a apporté quelque chose dans ton métier par la suite ?
Disons quand je fais à peu près la même chose que je fais à Muséomix, à part que je fais plus sur du long terme, donc ce qu'on fait en 3 jours à Muséomix on le fait en plusieurs semaines, plusieurs mois, on le fait dans des collaborations plus importantes, mais je fais à peu près la même chose. Après ça permet de mettre en pratique, de faire de l'entraînement, de... Par exemple, dans Muséomix cette année, quand j'ai participé en tant que codeur, on a pu aller jusqu'à avoir un prototype final en 3 jours. C'est pas forcément quelque chose qu'on voit forcément à l'extérieur.
Ce que je peux peut-être rajouter, c'est qu'en tant qu'organisateur, Nicolas nous amène aussi un ensemble de technologies que nous, on met à disposition des muséomixeurs, en fait. Donc que ce soit l'électronique, l'audio, alors ça peut aller jusqu'à la réalité virtuelle, les écrans tactiles, voilà, toutes ces technologies que nous, on va dire moi, parce que c'est aussi mon métier professionnel de la culture, on maîtrise pas du tout, en fait. On n'en a qu'une idée vague d'utilisateur lambda. Voilà. Pour nous, avoir à côté des professionnels qui maîtrisent ces technologies-là et qui les mettent à disposition des muséomixeurs, c'est une énorme valeur ajoutée.
Et est-ce que, du coup, suite à cette expérience, Nicolas, est-ce que tu te considérerais comme un médiateur culturel ?
Je dirais pas ça, parce que je pense que les médiateurs, c'est plus des gens qui savent bien parler et bien expliquer leur projet. Moi, dans le projet, j'ai pu participer à la conception, au développement, au choix des idées, mais je me vois pas aller faire me mettre devant l'installation et expliquer toute la médiation qui est à côté.
Merci beaucoup pour cette réponse. Je propose maintenant de passer à une petite pause musicale.
On commence avec Rodriguez, un musicien de rock et folk américain. C'est le héros du documentaire qui lui est consacré, qui s'appelle Sugar Man. Et on va tout de suite écouter Inner City Blues, extrait de son album reconnu Cold Fact. If we follow where they're leading, we will surely come before. Someone seen in wondrous magic, may the visions to explore. Near the town where we were living,
father's finest clothes. You the honey water market. I've been jacket filled with holes. I've been searching all these hours for a hand as pale as bone that will keep the strongest sunlight and reflect the brightest stone. Near the town.
Dans la foulée, James Vincent McMowo, Rodriguez s'est transformé en James Vincent McMowo. C'était la chanson This Old Dark Machine, mais c'est rien, c'était quand même très agréable à écouter. Je laisse la place à Aude et Chloé pour une deuxième série de questions.
Merci beaucoup Théo. Alors, du coup, on peut dire qu'en ce moment, on a le sentiment que les nouvelles technologies sont omniprésentes, et notamment dans la question des industries culturelles et au sein des musées. Donc, selon toi, Antoine, en quoi Muséomix s'inscrit dans cette nouvelle dynamique? Est-ce que tu penses qu'il y a des différences qui sont notables?
Effectivement, Muséomix s'inscrit dans cette dynamique. En fait, Muséomix part d'un constat, c'est qu'il y a un décalage en fait, entre les usages quotidiens qu'ont certaines personnes, on va dire surtout les jeunes, peut-être, des nouvelles technologies. On a tous un smartphone dans la poche aujourd'hui. Et les musées, qui peut-être sont un peu restés figés dans des modèles qui technologiquement ne sont plus... en phase avec ces nouvelles technologies. Et ce que se sont dit les fondateurs de Muséomix, et évidemment on est d'accord avec eux, c'est que ce changement ne viendra pas forcément des musées eux-mêmes. Donc c'est peut-être à nous, les muséo-geeks, comme on dit, les fans de musées, les usagers des musées, d'aller voir les musées en leur disant on va s'amuser avec vous à remixer votre musée en y faisant rentrer ces nouvelles technologies. Et tout le monde a y gagné, la preuve. Et à notre petite échelle, on essaye un peu du coup d'impulser ce changement et cette adaptation, on va dire, à la modernité dans les musées. Voilà. Ce qui effectivement existe ou pourrait être appliqué à d'autres institutions, culturelles ou pas. Nous, on a décidé de le faire dans les musées et ça fonctionne plutôt pas trop mal.
Merci beaucoup. Donc, pour donner une petite idée à nos auditeurs de ce qui se fait à Muséomix, est-ce que tu peux nous décrire certains prototypes qui ont été inventés cette année?
Alors oui, je peux le faire. Par contre, à la radio, évidemment, c'est pas évident quand on parle de choses qui ont été construite et fabriquée pendant 3 jours. L'idéal, ce serait de le voir, mais je peux essayer de le faire. Donc on a eu 4 prototypes pour 4 équipes cette année, 2 qui sont des applis sur tablette, et 2 qui étaient plutôt sous la forme de meubles qui étaient positionnés dans l'espace du musée. En fait, nous, quand on organise Museumix, on guide la créativité des muséomixeurs à travers des thématiques qu'on avait définies. Parmi ces thématiques, par exemple, il y avait la mort, puisque la mort, c'est une thématique qu'on retrouve beaucoup dans l'archéologie, puisqu'on fouille des tombes, on voit le passé. Et donc, ces muséomixeurs qui avaient comme thématique la mort ont développé une appli qui, en fait, guide le visiteur à travers le musée sur une tablette, en lui faisant s'arrêter devant certaines étapes dans le musée qui aborde la thématique de la mort, ou en gros comment on mourait à telle époque, puisque le musée est organisé de façon chronologique. Donc ça, c'était la première appli, et donc à la fin on arrive devant une tombe, voilà, et en fait à chaque étape il y a un questionnaire, et si on répond mal, on est mort. Si on répond bien, on a le droit de continuer le voyage. Il y a eu une deuxième appli qui était plutôt en mode chasse au trésor. Donc pareil, avec un système d'étapes qui était dans le parcours, et on devait s'arrêter sur chaque étape, et on avait des questions dont la réponse se trouvait quelque part dans le musée. Okay. Et une fois qu'on avait trouvé toutes les réponses, un peu comme dans Fort Boyard, on a une série d'indices et on doit trouver un mot-clé, ce mot-clé permettant d'ouvrir à la fin du parcours un trésor. Et donc alors pour l'anecdote, on a fait un cryptographe imprimé en 3D. Je vous laisserai aller chercher ce que c'est.
Un cryptex.
Ouais,
hein, cryptex.
Un cryptex, pardon, merci Nicolas. Et voilà, et en fait, on ouvre le trésor, on s'attend à trouver un truc très précieux. Et en fait, dans ce trésor, ils avaient mis des objets de notre quotidien aujourd'hui, détériorés. Donc il y avait un cadavre de Walkman, des cartouches d'encre. L'idée étant de dire, imaginez comment les archéologues dans 1000 ans tomberont sur ces objets et comment ils les interpréteront. Donc c'était un peu pour relativiser la démarche archéologique. Alors, je suis désolé, je suis peut-être un peu long.
Non, il n'y a pas de souci.
Donc le troisième prototype, c'était plusieurs meubles qui étaient situés dans le parcours d'exposition qui devaient expliquer quelle est la méthode de travail de l'archéologue. Et en fait, vous aviez un meuble avec des boutons et un objet qu'ils avaient pris dans les collections, qui était accroché, et le spectateur devait deviner ce qu'est cet objet. Donc avec plusieurs propositions, ils appuyaient sur le bouton, ils se trompaient, on leur disait non, et s'ils avaient bon, en fait, ils avaient un discours qui leur expliquait exactement quelle était la méthode. Et donc par exemple, parmi ces objets-là, il y avait un os, tout simple, un os humain. Et on avait plusieurs propositions qui avaient l'air très sérieuses, et une proposition qui avait l'air fantaisiste, c'était cet os servait de patin à glace. Et bien en fait, la réalité, c'est que c'était ça la bonne réponse. C'est que cet os servait vraiment de patin à glace. Voilà. Donc, expliquer derrière comment l'archéologue arrive à aboutir à cette conclusion-là, voilà, c'était ça un petit peu l'idée du prototype. Parce que c'est pas évident. Voilà. Et le dernier prototype, c'est celui sur lequel Nicolas a travaillé. Donc, qui était en fait un système avec 2 écrans, dont un tactile, avec des pièces de monnaie qu'on avait imprimées en 3D, qui sont par ailleurs les vraies pièces dans le musée. On les avait refaites en 3D. Et en fait, ces pièces imprimées en 3D, arrivait sur un écran tactile, et on passait son doigt de la pièce à l'écran, et la pièce se matérialise sur l'écran, et on la faisait tomber dans une balance, et quand la pièce est tombée virtuellement dans la balance, ça ouvrait une vidéo qui vous expliquait finalement quel a été le parcours à l'époque de la pièce de monnaie qui arrivait d'Afrique du Nord jusqu'à Douai, puisque tous les objets avaient été trouvés à Douai. Donc voilà, l'idée là, c'était la thématique du voyage, c'était de montrer que à des époques très reculées, on avait déjà beaucoup de circulation commerciale, d'objets, dont les pièces sont ce symbole. Voilà. Je sais pas si j'ai été clair.
Ah si, si, très très.
J'ai été trop long peut-être.
Alors non, pas du tout, enfin il n'y a pas de problème par rapport à ça. Est-ce que par la suite, les institutions reprennent certains prototypes qui sont inventés à Museomix?
Alors les prototypes ne sont pas conçus dans ce but-là. Nous, le challenge qu'on fixe au Museomixeur, c'est bien de créer quelque chose de nouveau. Et que le public qui vienne le dimanche soir, donc au bout des 3 jours, puisse tester ces prototypes-là et qu'ils soient, on va dire, fonctionnels. L'autre partie de l'obligation qu'on leur donne, c'est qu'ils laissent ces prototypes-là en exposition pendant une ou deux semaines. Là, ils sont restés encore deux semaines après pour que le public puisse continuer à le tester. Après, on est sur des prototypes. Donc, c'est un travail qui n'est jamais totalement finalisé. Donc, si un musée ou une autre institution souhaite récupérer, on va dire, ou pérenniser ces prototypes là-bas, il y a quand même un gros travail à faire dessus pour les améliorer et les rendre, on va dire, totalement conformes. Ce que l'on sait sur les prototypes que j'ai décrits, c'est quand même que le prototype, le dernier que j'ai décrit, celui avec les pièces de monnaie, a beaucoup intéressé le musée, qui sont peut-être prêts, sous réserve de financement à obtenir, parce que c'est aussi ça la réalité du fonctionnement d'un musée, l'améliorer et de le pérenniser pour qu'il puisse être installé de façon permanente dans le parcours d'exposition permanente. Parce que pour eux, ce qu'il apporte était vraiment une valeur ajoutée par rapport à ce qu'ils avaient déjà en termes de contenu et en termes de médiation.
D'accord, merci beaucoup. Donc Aude, je te laisse reprendre la main.
Moi, je me tourne vers toi, Nicolas, justement. Donc, comme on l'a dit précédemment, tu étais codeur, que tu es dans le milieu de l'informatique, etc. Est-ce que tu penses que les nouvelles technologies aujourd'hui sont encore amenées à bouleverser le milieu de la médiation culturelle ?
Oui. Bah, je pense qu'en fait, ça va. Enfin, ça va arrêter d'augmenter. La médiation, elle va. Tous les domaines de la vie sont touchés par les nouvelles technologies. Ça va pas s'arrêter, enfin, ça, donc la médiation comme les autres la médiation comme les autres domaines ça va continuer. On voit les personnes qui ont des tablettes, on voit les personnes oui.
En tout cas, merci beaucoup à tous les deux d'avoir participé à cette interview et du coup au temps que vous nous avez accordé. Donc pour petit rappel, pour ceux qui n'ont pas pu assister à l'événement qui avait lieu à Arkéo cette année du 11 au 13 novembre, vous pouvez retrouver des vidéos de l'événement qui ont été filmées du coup par l'association Canne à Sucre Production qui sont disponibles sur le site de Muséomix, je suppose.
Alors sur la page YouTube de Muséomix, non.
Donc justement, vu que tu parles de page YouTube, est-ce que tu peux nous rappeler les différents endroits où on peut accéder?
Alors, comme on est adepte de nouvelles technologies, on est aussi adepte des réseaux sociaux, donc on est très actif en fait sur Twitter. Le nom du compte c'est @muséumxnord tout attaché, et également sur Facebook muséumxnord. Alors notre site internet n'est pas totalement finalisé pour le moment, donc je déconseille à tout le monde de s'y rendre, s'il vous plaît. Voilà, mais par contre on est très actif sur les réseaux sociaux, et effectivement parmi les choses qu'on fait pendant l'événement Muséumx, c'est qu'il y a beaucoup de vidéos qui sont tournées. Et on peut les retrouver sur notre chaîne YouTube.
Merci beaucoup. Et pour l'année prochaine, quelques idées déjà ou...
Oui, mais on ne peut pas en parler.
Ah.
mais nous ne manquons pas d'idées ni de musées intéressés par l'événement.
Ah, super. Encore une fois, merci beaucoup
d'avoir
assisté à cette émission. Théo, je propose de finir sur une petite note musicale.
Voilà. Mais merci Chloé et merci Aude, merci aussi encore à vous inviter et puis bonne continuation. Avant de retrouver les prochains étudiants ainsi que leurs invités, on va prendre la direction de M83. Pardon. Ils ont fait un carton avec leur album Hurry Up We're Dreaming. Ils sont français et leurs noms viennent tout droit d'un nom de la galaxie M83, avec leur chanson Raconte-moi une histoire.
Vision also, blue becomes red.